Actu SF, les podcasts.
Bien, alors, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cet entretien avec Ed McDonald's et à propos de son livre, donc Blackwing. Alors, une petite présentation d'abord. Ed McDonald est un auteur britannique diplômé en histoire médiévale, mais également maître de conférences à l'université Anglia Ruskin. Et Ed nous affirme avoir toujours eu le temps d'écrire et de pratiquer des armes médiévales, épée, hache, sabre. Et vous allez voir évidemment que cela va avoir son importance dans la conception du livre. Blackwing est publié en français en 2018, donc chez Bragelonne. Alors, c'est à la fois son premier roman. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, parce qu'on est vraiment sur une fantasy assez, vous voyez, assez fraîche. Hein. C'est un auteur voilà, qui nous arrive, qui c'est vraiment, je pense, quelqu'un de tout à fait novateur. Et le premier tome donc, d'un cycle appelé Ravensmark. Pardon pour l'accent. La marque du corbeau, donc c'est évidemment le titre du cycle. Donc ces livres donc paraîtront à raison d'un an, d'un par an. Et comme nombre de sorties anglo-saxonnes récentes, il se place aux avant-postes des nouvelles formes de la fantasy dont nous allons vous parler juste après. Par exemple, Ed McDonald maîtrise complètement les codes de ce qu'on appelle la dark fantasy. Avec un aspect post-médiéval, on va vous expliquer cela après, via une technomagie et la présence d'armes à feu, un aspect post-apocalyptique, et ça je pense que c'est quand même une grande originalité du roman, une ambiance presque gothique, très particulière mais très réussie, et je trouve que Blackwing, on va y revenir aussi, s'inspire de la dark fantasy par exemple de Glenn Cook et de Joe Abercrombie, mais propose aussi un univers très personnel, abouti et solide. Voilà, donc maintenant, nous allons passer aux questions. Alors, Ed, comment l'universitaire que vous êtes a-t-il décidé de passer de l'autre côté du miroir, comme Alice, et de publier Blackwing, de devenir un écrivain?
So I always say I don't remember any time in my life when I wasn't writing something. From the time I was a small child, I was writing fantasy stories, comics, whatever I was interested in, I just wanted to copy it and then do my own version. If I read Batman, I would write Batman. If I was reading, if I watched a film, I would then go and play the film in my garden and then go and write a story about the game I had played. And really, the writing always came much earlier than the academic side of things. I was a creative person first, and that I blame my mum entirely for that. She would be happy to be blamed, I think. But that came first, and my interest in medieval history really comes from the fantasy and the adventures I was interested in. King Arthur, Robin Hood, things like that happened to be taking place in the past.
En fait, je me rappelle jamais un moment où je n'ai pas écrit. Depuis que je suis tout petit, j'ai écrit, depuis que je suis un enfant, du fantasy, des comics. En fait, ça dépendait de ce que je lisais, de ce que je voyais à la télé. Je copiais, mais je faisais ma propre version de ce que j'étais en train de lire. Alors, je lisais Batman, je me faisais une histoire de Batman. Je réécrivais, je voyais un film qui me plaisait. J'allais le jouer dans mon jardin. Et puis après, j'écrivais une histoire. Donc, vraiment, l'écriture est venue avant le monde, avant l'université, avant le monde universitaire. Je suis tout d'abord quelqu'un qui est très créatif, et d'ailleurs je pense que c'est de la faute de ma mère, et qu'elle serait enchantée que je dise que c'est de sa faute. Et ensuite est venu l'intérêt dans l'histoire médiévale. L'histoire médiévale, tout simplement parce qu'à l'époque, ce que je lisais beaucoup de fantasy, je lisais beaucoup d'aventures, etc. J'adorais, et les héros que j'adorais, le roi Arthur et Robin des Bois, ces histoires-là, elles avaient lieu dans le passé.
And I think to add a little bit to that, if you have an interest in history, I think you have an interest in stories, because what else is history except the stories of things that have happened in the past? And being a historian and looking at things from the academic side, I think is just good food for your brain. I think it just helps us to learn about people, the way that people have acted differently in the past. And I don't think there is a better fuel for a writer than to read about history. In the book that follows on from Blackwing, which will be out in France next year, I think, I used stories that my grandparents told me about their experiences in the Second World War. And they were things I couldn't have imagined if they hadn't told me their stories. The terror of the Blitz over the city of Coventry, my grandfather's experiences in the army.
Alors en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse également aux histoires, parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire, mis à part des histoires qui ont eu lieu de par le passé? Et donc, en tant qu'historien, j'ai un intérêt universitaire, en quelque sorte, j'ai un point de vue universitaire de l'histoire, et ça, c'est un terreau très fertile pour le cerveau, pour l'imagination. On apprend sur les actions du passé, ce qui était différent de par le passé, et tout ça, c'est très bon, c'est vraiment quelque chose de très riche pour un historien qu'on écrit sur l'histoire. Le deuxième tome de ma série, qui va sortir l'an prochain en France, je le pense, s'inspire en partie des histoires que j'ai entendues de mes grands-parents sur la Deuxième Guerre mondiale, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, le Blitz au-dessus de la ville de Coventry ou l'expérience de mon grand-père dans l'armée.
Okay. Alors, deuxième question. Merci, Ed. Quels furent les auteurs et les lectures qui vous ont influencé?
So that is a very difficult question. so I'll pick some of my favorites. And they might be a little bit unusual. I'm going to start off with saying Jane Austen. I know it doesn't look like a Jane Austen. You've got a lonely man walking in a desert. But for me, all great stories start off or are about relationships between people. And that's what makes them human. That's what makes them connect with us on an emotional level. So at the core of Blackwing, there is magic, and there are swords, and there is war, and there is badness. But at the heart of the story, there is love and romance, and it's the romance that drives the character to act throughout the novel. So I'm going to start with Austen, but.
Donc, c'est une question difficile. Alors, je vais juste vous donner quelques-uns de mes favoris. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais Jane Austen. Alors, c'est particulier parce que ça ne ressemble vraiment pas à un roman de Jane Austen. Vous voyez un homme tout seul, là, dans le désert, avec un corbeau au-dessus de lui. On ne dirait vraiment pas un Jane Austen. Mais pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui parle de relations humaine. C'est ce qui humanise les personnages, c'est ce qui fait qu'on crée un lien émotionnel avec eux. Et bon, au cœur de Blackwing, certes, il y a de la magie, il y a des épées, il y a des batailles, des guerres, etc. Mais le vrai centre du livre, c'est l'histoire d'amour qui pousse le personnage à agir. En fait, c'est l'amour qui le pousse à agir.
So it's not just a Jane Austen book. other authors who are more fantasy who I love. David Gemmell. My favorite book is Legend by David Gemmell. I've read it 8 times. I read it again this year. I will always love that. then I would have to say Robin Hobb, but shh, like, don't tell her, because like I have breakfast with her, and like she'll get like a big head. But love Robin's work. Again, don't definitely don't tell Joe Abercrombie that I said this, but I like him too. And really, I like all the authors of the last 20 years who have tried to write fantasy that shows that human side. For me, that human side is what makes the difference between a very standard fantasy book and a fantasy book that tells us something a bit stronger, and the one that you read till 3 a.m. and you go away thinking, I'm so sad I finished the book. I wish it wasn't over. So.
Alors bon, c'est pas, y a pas juste Jane Austen dans mes livres. Donc maintenant, je vais parler un peu des titres de fantasy que j'aime beaucoup. Alors tout d'abord, un livre de David Gemmell qui s'appelle Legend, Légende, que j'ai lu 8 fois. Je l'ai lu l'an dernier. Je pense que ce livre, je vais toujours, toujours l'adorer. Et maintenant, vraiment, c'est un secret. Ne lui dites surtout pas. J'aime beaucoup les livres de Robin Hobb. Ne lui dites pas. J'ai pris le petit-déj avec elle ce matin et je pense que si elle le savait, elle prendrait un peu la grosse tête. Pareil, d'ailleurs, pour Joe Abercrombie. Ne lui dites pas, par pitié. Mais bon, tous les auteurs de fantasy des 20 dernières années, ceux qui se démarquent un peu, c'est du fantasy qui montre le côté humain des personnes. C'est ça qui fait la différence entre un livre de fantasy normal, ordinaire, et quelque chose de plus puissant, quelque chose qu'on lit jusqu'à 3 heures du matin, un livre qu'on a du mal à lâcher et que quand on l'a fini, on a toujours un petit pincement au cœur.
Okay. Alors, ce roman est le premier tome d'un cycle. Comment avez-vous élaboré cet univers? C'est-à-dire, est-ce que vous avez juste écrit un premier roman et après vous inventez au fur et à mesure? Ou est-ce que vous faites partie de ces écrivains, nous en avons évidemment, enfin il y en a partout, mais qui font une sorte de plan et puis qui se projettent quand même sur tout leur univers, voyez?
Okay, so we use the term world building to talk about how we write the universe, and often we talk about how much world building did you do. And I'm going to be honest, I didn't do any. I didn't think about it before I started. Before I started writing Blackwing, I just finished writing a very long novel that didn't sell. And I just wanted to write something that was fun for me, that I could enjoy and get over crying about my failed career as a novelist. And I just started writing it, and it just started to happen. And I often say the best ideas happen mid-sentence. You're writing about someone or something, and you throw in a random tiny detail that wasn't meant to be important. Like, for instance, in Blackwing, there are neon lights. A very, very sort of Blade Runner type lighting everywhere. That wasn't deliberate. I just was writing one day and I thought, it would be cool if there were neon lights. So I put them in the book. And then the neon lights led me to think, well, there has to be a system of power for them. So that better be magic. And then I better work out how that works, because otherwise this is going to be weird. And from there, it spirals and goes in steps as you build it piece by piece towards having a world.
Alors, dans le métier, on parle de construction de monde. Et on se demande, on se pose la question entre nous, alors combien de temps t'as passé à écrire ton monde, comment t'as écrit ton univers, etc. Mais personnellement, là, pour Blackwing, je n'ai pas créé de monde. Je n'ai pas construit de monde. J'y ai pas du tout pensé avant de commencer. Alors je venais, avant d'écrire Blackwing, je venais de terminer un très 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 long roman dont personne n'a voulu. Donc, je voulais faire quelque chose de sympa, qui m'amusait un peu pour me remettre de ce premier échec de ma carrière de romancier. Et j'ai commencé à écrire, et les choses se sont passées petit à petit. Les meilleures idées, en fait, quand on est écrivain, elles apparaissent au milieu d'une phrase. On écrit un détail sur un personnage ou une chose. Alors, dans mon roman, par exemple, vous verrez, il y a beaucoup de néons. C'est un peu à la Blade Runner, si vous voulez. Et j'étais en train d'écrire et je me suis dit, ce serait cool s'il y avait justement des lampes fluo, des lampes néons un peu partout. Et après, je me suis dit, oui, mais alors comment on trouve l'énergie pour les allumer, l'électricité, etc. Non, bah non, c'est de la magie. Et comment cette magie, comment fonctionne-t-elle, cette magie? Alors, voilà, il fallait que je trouve tout ça, parce qu'il fallait que je trouve une solution à tout ça, sinon ça aurait été bizarre. Et c'est comme ça que s'est créé le monde de Blackwing, un peu de fil en aiguille.
I think I should talk a little bit about one of the main location on which Blackwing is set, which is called the Misery. Are we talking about that at a later question, but the Misery is there was one idea I had that I really wanted to write about, and it's an idea that's been in my head for maybe 10-15 years, and I tried writing about it once before, and I don't think I had the skill when I was 22 to write it. I love the idea that the land itself is trying to get you, and that there is a deeper consciousness somewhere in the ground, somewhere in the air, in the sky, and the world itself hates you and wants to destroy you. And the Misery is an area of the world which it doesn't maybe know that it exists, but it hates all the living things that go into it, and it wants to destroy them all. And that didn't require any building before I began writing the book. I didn't have to write down anything about it. I just kind of knew what that was, because I've been feeling the desire to write about it for such a long time.
Bon, alors là, je ne sais pas si je prends une de vos questions, mais c'est il y a une chose intéressante. Par exemple, dans mon livre, il y a une bonne partie de l'histoire qui se trouve dans un lieu très particulier qu'on appelle la désolation. Alors, cette désolation, c'est une idée qui m'est venue il y a 10-15 ans. J'avais déjà essayé d'écrire dessus, mais à 22 ans, je n'étais pas encore assez bon comme écrivain pour pouvoir le faire. Et c'est l'idée que, en fait, la Terre veut t'avoir, elle veut te prendre. Elle n'a pas conscience, mais c'est en fait un monde qui vous déteste, qui nous déteste, veut nous détruire. Et la désolation, alors je ne sais pas si la désolation a conscience d'exister, mais elle veut en fait votre fin, elle vous déteste. Et là encore, il n'y a pas eu de construction de monde. Je savais ce que c'était que cette désolation, et ça faisait très longtemps que je voulais écrire dessus.
One more thing on that. With having a background in history, medieval history, the pre-modern culture in Blackwing is, I aimed it to be a bit like 17th century Europe. And some of my historical knowledge made that quite an easy thing to write, the technology, what's available to people, that kind of thing. Of course, that all goes out the window when you put in neon lights and Armageddon, doomsday weaponry, and monsters. But I think there is, if you are doing world building, if anyone here is a writer writing fantasy themselves, then a good basis in history is very, very useful as a shortcut to writing your own world building in fantasy.
Alors, bon, personnellement, j'ai une formation d'historien. Et Donc, je voulais écrire sur quelque chose qui, une sorte de culture, d'environnement pré-moderne. Je voulais, ça dans une certaine sorte, j'ai puisé sur mes connaissances de l'Europe du XVIIe siècle. Et mes connaissances historiques ont facilité ma tâche. Je savais à peu près quel type technologie était à leur disposition, ce qu'ils pouvaient, ce sur quoi ils pouvaient tirer. Mais après, bon, il y a des lumières néons, il y a des armes post-apocalyptiques, il y a des monstres, etc. Donc, bon, historiquement, il y a quelques petites choses, mais bon, je ne sais pas. Mais si vous, il y a des écrivains dans la salle, je peux vous garantir que des connaissances historiques peuvent très bien servir de raccourci quand on essaie de construire un monde.
Alors, justement, par rapport à votre univers, il y a eu beaucoup d'articles, j'ai vu sur Internet, qui identifiaient en fait votre roman aux nouvelles formes de fantasy contemporaine. Ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a une sorte dans votre roman de renouvellement finalement de la fantasy, même si vous en gardez certains codes. Donc, une dark fantasy, presque gothique. Et puis inspiré par la science-fiction, notamment dans ces images post-apocalyptiques, même si vous m'avez dit que vous n'étiez pas lecteur de science-fiction. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça, parce que vraiment, l'image de ce qu'on appelle la désolation, donc géographiquement, dans l'univers de Ed McDonald, vous avez donc une zone terrifiante qui s'appelle la désolation. C'est un territoire qui a été ravagé par des personnages énigmatiques que l'on appelle les rois des profondeurs et par la machine de Nal, un enchanteur ingénieur qui a détruit justement en partie ou au moins repoussé ces rois des profondeurs. Et moi, je trouve que ce territoire ressemble quand même sacrément à une terre irradiée par l'explosion d'une bombe nucléaire. Voilà, donc ma question était là. En fait, c'est une dark fantasy, mais quand même, je trouve un peu hybride avec la science-fiction.
So when I started writing Blackwing, I really thought it was going to be very historically based, 14th century, very historically accurate. And as I was writing, I found that wasn't very much fun. And I found that I kept saying to myself, what if I just put this in? What if instead of going into a forest, what if they go into the misery and it's a toxic, evil wasteland trying to kill them? What if instead of a traditional sort of patriarchal kingship, what if this was a republic where there is complete gender equality at all levels? What if instead of having water power or steam power, we have electricity that's drawn out of the air by enslaved minor magicians. This is going to be fun to translate. and so I think for me, one of the key things was just what interested me on one particular day. And then as I wrote about it, it became more and more interesting to me to expand the idea and make it into something that eventually, by the time the book is written and edited and edited and edited, it feels like a world. It feels like something that exists quite naturally as a whole.
Alors, bon. Quand j'ai commencé à écrire Blackwing, je voulais écrire quelque chose. Je pensais que j'allais écrire un roman historique qui était en fait très précisément, dépeignait très précisément le XIVe siècle. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte que c'était pas rigolo, que je m'amusais pas. Et puis j'étais en train d'écrire et je me disais, et ça, si je rajoutais ça, c'est plutôt qu'elle est dans une forêt, mes personnages, ils allaient dans la désolation, avec les déchets toxiques, les monstres, etc. Et si mes personnages, à la place de vivre dans un royaume où il y a énormément d'hiérarchie, c'est une société patriarcale et tout, si à la place de ça, c'était une république où il y a la parité, l'égalité homme-femme. Et si à la place d'utiliser de l'énergie vapeur ou hydraulique, ils utilisaient de l'électricité qui est tirée de l'air par des magiciens mineurs qui sont aussi des esclaves. En fait, c'était selon ce qui m'intéressait au jour le jour que, j'écrivais. Et plus je mettais des petits détails qui m'intéressaient, plus les idées se développaient. Et quand le livre a été écrit, qu'il a été édité, qu'il a encore été édité, et encore, bah ça fait une histoire qui est assez, qui est un tout.
I think something else. I wrote five novels, I think, before I wrote Blackwing, none of which will ever get to be read by anyone because they were all terrible. But in writing those, I think I had done the whole standard medieval fantasy. And I think everyone has seen Game of Thrones. Everyone knows what a medieval fantasy world looks like. We've all seen Lord of the Rings. And that, for a while, in the fantasy genre, has been the standard and the staple. And that's what we're used to and familiar with and comfortable with. And I didn't want to write a book that was just that again. I didn't want to write another Game of Thrones. I wanted to write something that felt fundamentally different in style, with the characters, with the technology, so that if ever, you know, all authors dream of the day they get told Netflix is going to make your book, yeah? And on the day Netflix, if they ever happen to turn up and say, hey, we'll make your book into a Netflix, I want to imagine that when you watched it, it would look different to Lord of the Rings. It would look different to Game of Thrones. So the technology, the landscape, the everything that I tried to put in, I wanted it to feel unique, so that it had a flavor of its own and it wasn't just another of what, you know, those books I loved when I was younger and still love today. I feel those authors own those books and they've done those books. And I want to be doing the next book that comes along. Yeah.
Alors, pardonnez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Désolée. Avant d'écrire Blackwing, j'avais écrit 5 romans que personne ne va lire parce qu'ils étaient vraiment pas très bons. J'avais en tête d'écrire du fantasy médiéval, mais en fait, on a tous lu ou vu, bon, on a tous vu Game of Thrones, on a tous vu Le Seigneur des Anneaux, et c'est un peu, comment dire, ceux qui ont créé les standards de cette littérature. On connaît tous ce fantasy-là, on l'adore, d'ailleurs, on est tous à l'aise dedans. Mais moi, je ne voulais pas refaire tout ça, je ne voulais pas faire une pâle imitation de Game of Thrones, ou Game of Thrones 2. Non, je voulais un style différent, des personnages différents, une personnalité différente, de la technologie différente. Tous les auteurs rêvent du jour où Netflix viendra frapper à leur porte et leur demande s'ils peuvent transformer leur livre en série télé. Et bah, si moi, Netflix vient frapper chez moi, je voudrais qu'il fasse quelque chose de différent du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Je veux que ce soit différent, une technologie différente, un monde différent. Je veux que ce soit unique. Je veux pas que, même si j'adore ces romans, si je les ai lus et relus quand j'étais enfant, je veux pas que ce soit quelque chose qui a déjà été fait. Je veux quelque chose de différent, en fait. Je veux aller un peu plus loin. Je veux créer la prochaine étape.
Non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais je pense on a compris, Claudine. Merci beaucoup. Voilà. On change un petit peu de sujet. Donc, on va revenir. Je sais que vous pratiquez. Enfin, c'est ce qui est noté évidemment dans vos biographies. Vous pratiquez les armes médiévales. Des armes, l'épée, la hache. Le sabre, hein, je crois, je ne me trompe pas dans ces types de d'armes. Et alors, je me demandais si votre pratique des armes médiévales est à l'origine de votre héros, Ou est-ce qu'au contraire, cette pratique, elle a servi à rendre crédible votre personnage? Alors, le héros s'appelle Gal Arrow, donc une aile noire. Je vous en parlerai juste après, en rapport d'ailleurs avec le magnifique tatouage de Ed sur son bras. Et c'est un personnage qui est un redoutable bretteur, qui maîtrise complètement les armes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous pose cette question par rapport à cette pratique.
Yes, okay, so what I study what is known as HEMA, historical European martial arts, which means that we get historical documents starting from the year 1290 up to 1900, and we take these documents, translate them, and then try and interpret them, and they explain how you fight with swords, with axes, sabers, this kind of thing. And this is pretty hard to do because you have to, first of all, work out what the medieval German is saying. And then you have to work out, well, once you've translated it, then it's no easier to understand what they're saying anyway. But we try and work it out and try to sort of authentically learn to fight in this style that people did in the past. There are lots of French sources, particularly for rapier, épée de guerre, and they teach you not sport fencing, but actual sword combat. And it was a big influence for some of the scenes in Blackwing. There are sword fights, which I very much enjoy writing, and I wanted to make them feel like my experience of what real sword fighting is like. And real sword fighting normally goes clash dead. it's fast. It's very, very fast. The sort of fencing about for 10 minutes doesn't often happen. It's usually clash dead.
Oh, how do you say rapier in French?
Épée
de guerre, ok. Alors, personnellement, j'étudie ce qu'on appelle le HEMA. Alors, c'est historical, historical European Martial Arts. Alors, les arts martiaux historiques européens. On prend des documents historiques, en quelque sorte, bon, de 1290 à 1900, on les traduit, on les interprète. Et ce sont des documents qui expliquent les combats d'épées, de sabres, etc. Alors, c'est assez difficile. Déjà, il y a la difficulté de l'allemand, du français médiéval, c'est pas facile. Mais en plus, les difficultés sont bien plus que linguistiques. Il faut vraiment comprendre beaucoup de choses. On apprend comment ils se battaient. Alors, prenez par exemple les sources françaises qui parlent des épées de combat, etc. C'est des combats, c'est pas de l'escrime, c'est vraiment des combats. Et c'est quelque chose qui a beaucoup inspiré des scènes de mon roman Blackwing. Il y a pas mal de combats à l'épée parce que j'adore. Et une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ces combats à l'épée, quand on les voit dans les films qui durent 10 minutes, les films de cap et d'épée, etc. Non, c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus rapide en réalité. C'est bang bang, t'es mort. Ah, bang bang, clang clang plutôt. Clang clang, t'es mort.
I think it's worth saying that I think all writers know that they should do some research, but often one of the parts that writers will skip their research on is to do with the physical experience parts of things. So writers will look up types of sword, but then won't always think about how those swords are used or what it's like. So if you, like, I went and rode on a horse a few times. I'm not a good rider, but I tried riding a horse because I thought I should feel what it was like. And the main thing you learn about a horse is if you're a guy, you've got to wear some tight-fitting pants, because otherwise you are, and it is not comfortable. that was my main lesson from riding a horse. And with the sword fighting, don't let anyone tell you that swords are heavy. Swords weigh 1 kilo or 1.5 kilos. They are light. They are meant to be, if they're heavy and you can't swing them. They are useless things. And so I think that adds an extra layer of authenticity to a book. And I'm sure there are things that I didn't research that I've probably got wrong at times. Everyone will. But hopefully that for me was something that I was very, because it's my something I'm really passionate about. It was something I wanted to get right. So hopefully. I'm sorry you're going to have to translate about horses.
Yeah. Cats in the English sense, not in American.
Right. Voilà. Je pense que quand on écrit, on fait de la recherche pour savoir un peu sur quoi on écrit. Mais une chose qu'ont tendance à faire beaucoup d'écrivains, c'est qu'ils oublient l'expérience physique, tout simplement. On fait de la recherche sur les types d'épées, mais on ne pense pas comment c'est utilisé en réalité. Et il faut avoir cette expérience physique. Alors personnellement, quand j'ai fait ma recherche pour le livre, j'ai monté à cheval une ou deux fois. Et c'était assez particulier. Et quand on est un homme, d'ailleurs, et qu'on fait du cheval, une chose que j'ai retenue personnellement, c'est qu'il faut vraiment mettre un slip très, très, très serré. Sinon, c'est pas confortable. Dit monsieur, clairement. Quand on parle de combat à l'épée, on a cette idée que les épées étaient très lourdes. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, elles pèsent 1 kg, 1,5 kg. Une épée trop lourde, elle ne sert strictement à rien si on ne peut pas la porter. Et tout ça, ça permet plus d'authenticité. Alors, bien sûr, il y a sans doute des passages que j'ai moins, pour lesquels j'ai fait moins de recherches et où je me suis peut-être un peu trompée. Je fais des erreurs comme tout le monde. Mais voilà, les combats à l'épée, c'est ma passion et je voulais que ce soit juste.
Alors, on va passer maintenant un petit peu aux personnages. Alors, je vais parler un petit peu des personnages qui représentent le mal dans ce roman, sans trop spoiler, évidemment, l'histoire, pour vous laisser, bien sûr, le plaisir de la lecture. Donc, les personnages du mal sont donc ce qu'on appelle les rois des profondeurs, qui sont assez peu décrits, finalement, dans le roman, sauf à la fin, où on en voit effectivement un. Ces rois des profondeurs créent en quelque sorte des serviteurs, qui sont des serviteurs assez terribles, que l'on appelle donc les promises. Donc les promises, ce sont des sortes de sirènes. Alors évidemment, ça n'a absolument pas la forme d'une sirène, hein, c'est plutôt dans l'idée, si vous voulez, c'est-à-dire des créatures féminines qui se gorgent en fait du désir homme comme femme qui les côtoie et qui en fait asservissent par la sensualité donc les gens qui vont les toucher, les apercevoir, etc. Et puis il y a un autre type, je dirais, de serviteurs de ces rois des profondeurs que l'on appelle donc les favoris et qui sont des gens transformés en adolescents, je crois à peu près, ou pré-adolescents, et qui sont, je dirais, qui possèdent une force mentale extraordinaire, qui projettent cette force mentale chez leurs adversaires et qui détruisent quasiment le cerveau de ses adversaires. Donc en fait, ce sont des personnages du mal qui agissent quand même beaucoup psychologiquement d'ailleurs. Donc comment est-ce que vous les avez conçus? Pourquoi avoir finalement créé ces forces assez particulières?
So I suppose there is probably something wrong with my brain. it's interesting hearing someone else describe the weird monsters that you've invented. So, to start with, the Deep Kings are off stage for most of the book, and I've always really loved reading about bad guys who are total evil. When your characters, your hero characters, are not really all that good in themselves, I think it's quite interesting to have a super evil that is nothing but evil to fight against. So, Cthulhu, Sauron in Lord of the Rings, you know, these are far away, but just undeniable forces of darkness. And because of that, we have to meet them through their servants, not meet them face to face. because if we do, they're just too terrible to imagine. They are our they are our nightmare. They are the end of all things. So, how do you create monstrous creatures that are genuinely frightening? And I think this has a horror element to it. A monster like a dragon, it's not really scary. What can a dragon do? It can burn you. It can eat you. Those are horrible things, but they are not frightening things in our imaginations. Instead, a creature like the brides that sort of seduce and enslave people to then do what they want, that's turning our own humanity against us. And I think that's much more frightening for a monster. That's far darker. That's really monstrous. And the darlings, who are terribly evil, very old, but look like children. I think there's nothing more, well, horror movies, it's all about scary children, isn't it? Horror films are all about frightening looking children, because that's our worst fear come to life, that there would be something evil and wrong in a child, because children are pure and innocent. And when we see that turned around and they become the enemy, like Midwich Cuckoos, The Exorcist, that's the real bone-shaking terror for me.
Sorry, I'm trying to find the beginning. Right. Je pense que j'ai peut-être quelques petits problèmes dans mon cerveau. Bon. Mais c'est très bizarre d'entendre votre description, la description que vous avez faite de mon monstre. Les rois des profondeurs, en fait, oui, ils sont beaucoup dans les coulisses. J'aime cette idée d'un personnage entièrement mauvais, qui n'a rien de bon. Et il y en a dans la littérature, Sauron dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnages, qui sont très noirs, très mauvais, sont loin. Ils sont loin. On sait qu'ils sont rarement dans le livre. On ne les rencontre pas en personne tant que ça. On rencontre leurs serviteurs, mais jamais en tête à tête, tout simplement, parce que c'est terrifiant. Et c'est ça, c'était ça. Je voulais créer des monstres qui font vraiment peur. Prenez un dragon, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'un dragon ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ça peut vous manger, ça peut vous brûler. Oui, c'est pas sympa, j'admets, mais ça fait pas vraiment peur. Alors que les promises, dans mon livre, elles séduisent, elles réduisent en esclavage. Elles, en quelque sorte, elles tournent notre humanité contre nous. Elles transforment notre plaisir en peur. Et c'est ça qui fait peur. Ou les favoris, qui sont en fait des entités maléfiques, très vieilles, très âgées, mais qui ont l'apparence d'enfants. Et les films d'horreur, c'est vrai, une chose qui est vraiment terrifiante, c'est les enfants qui deviennent maléfiques. Ça me fout vraiment les jetons. Un enfant qui est censé être pur, qui est censé être innocent, qui soudain devient cruel, mauvais. C'est le monde à l'envers et c'est vraiment quelque chose de très commun dans les films d'horreur comme L'Exorciste, par exemple.
Voilà, et nous allons terminer cet entretien par le personnage principal. Donc, personnage principal que vous avez, la silhouette que vous voyez sur la couverture, hein, qui est dans ce désert donc, de la désolation. Personnage principal qui s'appelle, donc, c'est le capitaine Gal Arrow, et qui apparaît comme particulièrement construit, notamment psychologiquement. Ce qui est intéressant dans le roman aussi, c'est que, je crois que vous l'avez dit, Ed, tout à l'heure, mais il y a une véritable construction psychologique de ce personnage. Alors c'est un personnage, c'est un héros qui est vieilli, enfin pas complètement vieux non plus, mais je veux dire qu'il y a, je pense, à peu près une quarantaine d'années, non, hein, c'est ça, qui a beaucoup vécu, qui a subi des épreuves, des traumatismes, qui est abîmé aussi physiquement, mais qui est encore puissant, intègre, et qui recherche en fait encore l'amour. Donc en fait, on a un personnage qui, je trouve, est très, voyez, très mature, qui est assez réaliste. Pas un personnage de fantasy, un héros puissant qui ne se pose jamais de questions, etc. C'est un personnage qui oscille constamment entre le bien et le mal. C'est un personnage qui est totalement dépendant d'un enchanteur. Et c'est là que je vais demander à Ed de montrer son magnifique tatouage. Parce qu'en fait, le personnage de Gal Arrow a un tatouage donc, de corbeau sur le bras. Et quand l'enchanteur donc souhaite communiquer avec lui, eh bien malheureusement le tatouage, la peau s'ouvre. Il y a un corbeau qui sort et qui va parler donc à ce capitaine Gal Arrow pour lui donner des ordres, pour voilà communiquer avec lui. Et c'est évidemment, ça fait très mal. Hein, vous imaginez qu'un corbeau sorte évidemment du tatouage. Donc c'est pour ça que j'étais assez fascinée par ce tatouage parce que du coup tout de suite j'ai visualisé évidemment. C'est trois ou quatre scènes que nous retrouvons dans ce roman, et trois, quatre scènes quand même de douleur pour notre personnage. Voilà, donc je me suis un petit peu perdue en route. Voilà, donc pourquoi, je reviens à ma question, pourquoi avoir choisi ce type de héros assez mature, mais aussi parfaitement construit?
Ok, I should point out, I got this tattoo after I wrote the book, because I had a bet with my brother, I had a bet with him, that if the book got published, I would get the tattoo from the book. And I didn't think it would get published. And then it did. So I had to get the tattoo. So it was sort of an accident. So I didn't really think about crafting a character to fit any kind of level of complexity. I just started writing this character and a good rule of thumb for writing is to try to start your story as late in the story as you can. So you don't want to start at the beginning, you want to start nearly at the end, so there's a lot of backstory for us to find out about the character as we go along. And because I knew some of the backstory for the character, that really just gave me a very clear idea in my mind of the way he would act, how he would respond to people. And I think as any author, you can't help but put a bit of yourself into your characters, and each character maybe has a little different bit of you in. That's not to say that I am Gal Arrow, because he is an alcoholic and a murderer. But I do think he shares some aspects of my life, just as the other characters in the book have some aspects of myself as well. I think that if a character is not complicated, if they don't exist on several levels, then they will feel flat. And as people, we all question ourselves. We change our minds, we vote for one person, then vote for someone else, and we never really know whether what we're doing is right or wrong. We don't have all the information even to make those decisions. And I wanted that feeling for Blackwing of, if you don't know everything that's going on in the world, so you're not the author, then how do you know if what you're doing is helpful or not? It's your best intentions. You hope that you are doing good things if you can be bothered, if you care. And sometimes maybe you don't.
Bon, alors déjà, soyons sincères. Le tatouage, je me le suis fait après avoir écrit le livre. C'était un pari avec mon frère. Il a dit que s'il était édité, s'il était publié, il fallait que je me fasse un tatouage comme celui du livre. Et je ne pensais pas qu'il allait être publié. Alors bon, voilà, il a fallu que je fasse le tatouage. C'était pas vraiment voulu. Je pense Quand j'ai commencé, je ne voulais pas créer un personnage plus ou moins complexe. C'est assez personnel comme règle, mais moi, quand je commence une histoire, j'aime bien la commencer aussi tard que possible. Quand je commence un roman, j'aime bien commencer que le roman débute aussi tard que possible dans l'histoire. Si on commence près de la fin, en fait, on a plein de choses sur lesquelles revenir. On a toute une histoire du personnage qui nous permet d'avoir une idée claire d'où on va, comment il agit, comment il réagit, etc. L'écrivain, en fait, quand il écrit, un auteur met beaucoup de soi dans ses personnages. Bon, alors, nos personnages ne sont jamais 100% qui nous sommes. Prenez Bongal Raro, c'est un alcoolique, un assassin. Personnellement, non, je suis ni alcoolique ni assassin, mais il y a beaucoup de choses de lui en moi. Et quand on écrit, si on ne crée pas des personnages complexes, si on ne crée pas des personnages qui ont plusieurs couches, on finit par créer des personnages un peu plats. Et donc, on veut des personnages qui se questionnent, qui changent d'avis, qui ne savent pas forcément si ce qu'ils font est juste ou ne l'est pas. On n'a pas... quand on est un personnage de roman, on n'a pas toutes les informations quand on prend une décision. Alors, on ne sait pas si on fait le bien ou le mal. Et c'est justement ça qui les rend intéressants.
Ok. Donc, nous arrivons à la fin de cet entretien avec Ed MacDonald. Je vais vous laisser la parole quelques minutes si vous souhaitez lui poser des questions. Voilà, nous n'avons pas de micro, donc il peut se déplacer, mais vous pouvez venir ici, vous pouvez parler fort si vous le... Voilà, si vous le souhaitez. Donc, oui, monsieur.
Ça fonctionne.
Non.
Bon, d'accord. Voilà. Je suis quelqu'un qui parle fort, il n'y a pas de problème.
Non, c'est bon. Ok. Alors, allez-y.
Vous parliez d'un style novateur dans la fantaisie de ces 20 dernières années. Je pense à un auteur qui est très connu.
I've not read The Dark Tower, I don't know if I've read any Stephen King actually. As an author, when someone mentions to you that what you're writing sounds a little bit like something else, you deliberately don't read that thing. So there was an author by the name of Daniel Polansky, and as I was writing Blackwing, I read his first book, which was called Lowtown, and I realized, oh, I'm seeing a similarity in style here. So I closed it and I put it away until I was finished, because you don't want to, if you feel that something might be similar, you don't necessarily want to be influenced by that. And I've heard since that The Gunslinger, the first Dark Tower book, has this sort of desert, is a bit crazy. And for that reason, until I've finished reading or writing all of the Le Marc de Corbeau, I won't read those books. But I look forward to reading them. Hopefully I'll enjoy them.
Personnellement, je n'ai pas lu La Tour Sombre. Et il se peut d'ailleurs que je n'ai jamais lu de roman de Stephen King. Parce que quand les gens commencent à dire que votre style ressemble à celui d'un autre écrivain... Non, je sais. Donc, quand on dit à un romancier que son style ressemble à celui de quelqu'un d'autre, on essaye de les éviter, justement. Quand j'écrivais le premier tome, j'ai commencé à lire un roman de Daniel Polanski qui s'appelle Low Town en anglais. Et je me suis rendu compte que son style ressemblait beaucoup au mien. J'ai donc décidé de le mettre de côté, de le ranger et de le laisser à plus tard. On ne veut pas être influencé par des textes qui ressemblent aux nôtres. Et voilà, il paraît que le premier tome de la série de La Tour Sombre, Pistolero, est dans un univers assez semblable à celui de ce roman. Alors, je ne vais sans doute pas les lire avant d'avoir terminé la série.
D'autres questions à poser à Ed McDonald ? Non ? Bon. Eh bien, écoutez, comme il est parfaitement l'heure, nous avons tenu les temps de façon extraordinaire. Donc, nous allons nous arrêter ici. Nous allons remercier Claudine pour sa traduction. Voilà, excellente traduction. Et puis, Ed McDonald pour vraiment l'approfondissement et la présentation, effectivement, de son roman, de son travail d'écrivain. Et encore une fois, je vous le redis, voilà, moi, c'est lecture un petit peu coup de cœur de cette année. Donc, si vous ne l'avez pas lu, eh bien, précipitez-vous sur Black Queen. Et j'espère qu'un jour, Netflix vous fera une proposition. Ce sera un univers très, très intéressant, vraiment, à explorer iconographiquement. Voilà. Merci beaucoup et merci de votre présence.
Merci beaucoup.